carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Carrefour des Arts consacre une série d'émissions à l'œuvre ultime dans l'art, un rendez-vous que nous vous donnons régulièrement avec le professeur Jacques Lubinet, correspondant à l'Académie des Beaux-Arts et secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie de médecine. Une émission aujourd'hui consacrée à l'œuvre de la sculptrice, peintre et graveur et plasticienne Louise Bourgeois, qui s'est éteinte en mai 2010 à l'âge de 99 ans. Très jeune, elle aide ses parents à restaurer des tapisseries anciennes et on imagine donc que c'est ce rapport au tissage qui l'amènera à symboliser sa mère en araignée, tissant avec assiduité et patience, mais aussi protectrice et prédatrice. Les corps et les têtes en trois dimensions réalisées en tissu viennent certainement de là aussi. Jacques Lubinet, vous avez ainsi identifié plusieurs thèmes comme source de l'œuvre ultime de Louise Bourgeois, la femme maison, son rapport à la maternité, son rapport à la mère, les tissus mais aussi l'écriture et son identification à Eugénie Grandet, personnage de la comédie humaine de Balzac sur l'inflexibilité du père, la perte des illusions d'Eugénie, la fille et l'effacement de la mère. Alors, Jacques Lubinet, Louise Bourgeois, a-t-elle été toujours dans cet esprit un peu féministe ?
Sûrement, mais son esprit c'est compliqué parce qu'elle aime dire quelque chose est le contraire. Elle aime manier le paradoxe et très souvent ce qu'elle montre a un double sens. Alors, on reprend les chapitres. Premier chapitre quand même, la femme maison. Ce qu'on appelle la femme maison, c'est le titre d'un livre de Jean Frémont. Et la femme maison, d'abord, elle occupera beaucoup de maisons. Et ce qui est plus important, c'est qu'elle en a gardé le souvenir. Vous voyez cette image, c'est une gravure qui s'appelle « Femme maison ». Cette image date de 1994, elle est très récente. Elle l'a fait à la fin de sa vie. Et à la fin de sa vie, elle refait l'inventaire des maisons qu'elle a connues et elle en a connu beaucoup. C'est d'abord en France, le long de l'eau, le long des rivières, Choisy le long de la Seine, Clamart le long de la Bièvre, parce qu'elle est d'une famille où on restaure les tissus, il faut de l'eau. Bon. Et puis ensuite, elle a longtemps vécu au-dessus du Flore, à Saint-Germain-des-Prés. Elle a été à l'école au lycée Fénelon, près d'ici. Elle a vécu aussi un peu au Buisson et elle avait des grands-parents qui ont vécu au Canet. Donc, une géographie parisienne. Et puis ensuite, elle part, elle quitte la France, elle épouse un grand critique d'art qui était en même temps un ethnologue qui s'appelait Robert Goldwater. Et Goldwater, c'est celui qui a mis en évidence l'importance, enfin ils sont beaucoup, mais lui a beaucoup insisté sur l'importance du musée de l'homme auprès de Picasso pour les demoiselles d'Avignon. Il voulait relier les choses. Je ne sais pas si Picasso ou comment il les a vues, mais enfin il les a vues. Et lui a beaucoup insisté sur ce fait. Donc, grand ethnologue, critique très connu, ils ont vécu ensemble d'abord dans l'est de New York, c'est-à-dire à la 18e rue, et puis à partir de 58 jusqu'à sa mort, elle va vivre dans l'ouest, dans la 20e rue, une maison anglaise, avec un petit escalier, maison tout en longueur et tout au bout le jardin. Donc un thème géographique, mais beaucoup plus qu'un thème géographique. C'est un thème qu'on va appeler un peu intellectuel. Et vous voyez ce dessin qui est important, c'est une gravure, pardon, qui s'appelle « Femme maison ». « Femme maison », c'est une gravure alors très, très ancienne, 46. Pratiquement, quand elle arrive aux États-Unis, elle n'avait rien fait. Elle commence à travailler artistiquement uniquement quand elle arrive aux États-Unis. Bon, et donc c'est très tôt, 46-47, elle arrive et elle représente cette femme dont la tête est prise dans une maison. Alors, elle fréquentait tous les milieux à cause de son mari, Goldwater. Elle connaissait très bien les surréalistes français qui étaient émigrés aux États-Unis pendant la guerre. Elle les a beaucoup connus. Elle a connu Breton, elle a connu toute cette bande. Et puis, en fait, quand on regarde de plus près, c'est pas, je crois, vraiment une gravure surréaliste. Et son œuvre du début, ses maisons, renvoie plutôt d'abord à Bachelard. Mais elle aimait pas Bachelard. Elle voulait pas qu'on dise que ça renvoie à Bachelard, parce qu'elle avait peur que Bachelard prenne trop d'importance pour elle. Mais Bachelard avait écrit, sans la connaître, « Maison et corps et âme ». Et puis, une critique qu'il a très bien connue, qui va l'exposer à Paris, qui s'appelle Marie-Laure Bernadac, qui vit toujours et qui est toujours très active. Elle, à propos des maisons, dit « mélange d'architecture et de chair ». Voyez le côté physique, le côté des maisons. C'est un lieu, mais c'est un lieu où on vit. Et ce qui est compliqué, c'est que ça a une double signification. Parfois, la maison est complètement ouverte, elle a fait des maisons transparentes. Plus souvent, c'est pour un peu cacher. Ça devient un terrier, ça devient un nid, ça devient un repère. C'est quelque chose d'un peu fermé. Et ça va devenir, et ça, je voudrais pas qu'on en parle aujourd'hui parce que ça ne fait pas partie de l'œuvre ultime, ça va devenir des cellules.
Mais qui sont quand même très connues.
C'était très connu. Elle en a fait beaucoup, c'est-à-dire des structures à moitié fermées, mais dont on voit l'intérieur. Et qui développe tous les thèmes qu'on peut imaginer. Mais c'est la vie intérieure. La vie intérieure dure américaine, un peu violente, un peu érotique aussi. Tout ça s'est mélangé. Et dans son atelier, qui était, j'ai oublié de citer, aux États-Unis le plus important, son studio de Brooklyn, qui était un immense garage, mais immense, il y avait 50 cellules, les unes à la suite des autres, attendant d'être exposées. Alors, voyez donc l'importance de ce concept de maison. Et puis, et ça, c'est Laure Bernadac qui l'a vu. La maison, ça a quelque chose pour elle de féminin. Ça n'appartient qu'à la femme. Ça n'appartient pas au mari. Ça n'appartient pas à l'homme. Et ça va être un peu un lieu de la maternité. Alors, on n'a pas tellement parlé de la maternité et de Marie-Laure Bernadac, mais c'est important. D'abord, épousant un Américain, elle quitte la France pour aller aux États-Unis. Et comme elle a peur de ne pas avoir d'enfant, avant de partir, en 1938, elle adopte un enfant français. C'est quand même extraordinaire. Elle a peur de devenir hystérique si elle n'a pas d'enfant. Aux États-Unis, elle fait des enfants comme tout le monde. Un fils, Jean-Louis, aussi beau qu'un gratte-ciel à New York, dit-elle. Et puis un autre, qui sera aussi très beau, mais qui met du temps à venir. La grossesse est longue, elle ne se passe pas très bien. Elle dit « Alain refusait de venir au monde ». Et après l'accouchement, elle fait une certaine dépression. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce thème, qui est quand même, qui se termine en 41, eh bien, il est repris dans l'illustration d'un livre qui a été écrit pas par elle, qui a été écrit par Jean Frémont, qui s'appelle Naissance. C'est un conte où Jean Frémont rêve du premier peintre qui a peint le sexe de l'enfant Jésus. L'enfant Jésus naît, est-ce qu'il a un sexe masculin ou non, ou est-ce qu'il est couvert? Et il y a un jour quelqu'un qui l'a peint avec son sexe masculin, bon, il en a fait un conte. Ça a fasciné Louise Bourgeois, parce que le sexe, pour elle, c'est important. Alors, elle a fait cette série que je vous montre là, c'est sur papier blanc, c'est fait avec une gouache rouge, et elle commence par la bonne mère, ce qu'elle aurait voulu être. La bonne mère, dans ce que je vous montre, c'est un peu un clown, avec les cheveux sur la tête, avec un petit truc pointu qui sort de la tête, bon. C'est joli, mais c'est à la limite de l'humour. Ensuite, quelque chose que je trouve assez terrifiant quand même, qu'elle appelle la femme enceinte, qui est un immense enfant qui couvre le ventre de sa mère. Ensuite, alors toujours, fond blanc, gouache rouge, et alors, regardez la naissance. La naissance, c'est un plongeon. Entre les jambes de la mère, cet enfant, il plonge les mains en avant. Et puis, elle termine par quelque chose de plus ambigu, la mauvaise mère, avec cet enfant qui est perdu. On ne sait pas si c'est le sein de sa mère ou si c'est l'utérus, on ne sait plus trop ce que c'est. Et voyez ce déroulement. Alors ce déroulement, ce qui est important, c'est que donc ça a été une de ses peintures et elle l'a un peu connue. Ou plutôt, elle a connu les attentes de la grossesse. C'est-à-dire, elle aurait voulu une fille. Elle n'a que des garçons. Elle en avait adopté un, elle en a deux autres. Elle va beaucoup s'occuper de ses enfants. C'est une très bonne mère. Michel, l'enfant français, va mourir assez tôt, mais les autres, je crois, vivent toujours. Elle s'en est beaucoup, beaucoup occupée. C'est pas du tout une mère qui ne s'occupe qu'à son âge. Elle s'est beaucoup occupée de ses enfants. Et puis, ce qui est intéressant pour elle-même, c'est quand elle est née, c'était pas la première, c'était la seconde ou la troisième, je ne sais plus, et sa famille voulait un garçon. Manque de peau, c'est une fille. Bon. De telle sorte que on va l'appeler Louison, comme un coureur cycliste, alors qu'elle s'appelle Louise. Vous voyez, ça c'est le jeu de mots de la famille qui signifie bien ce que sa famille voulait. Voilà pour la grossesse, donc thème ambigu.
Est-ce qu'elle en avait après les hommes? Parce qu'effectivement, à travers tout ce que vous nous avez dit, mais également ce phallus qu'elle porte comme ça sous son bras et qu'elle appelle fillette.
Oui, mais ça c'est le sexe. Alors ça, vous reprenez quelque chose dont j'aurais déjà dû parler. C'est étant donné qu'elle n'avait pas de garçon, elle sculpte un énorme, assez grand, oui, très grand, sexe d'homme. Et à la première photographie pour le musée d'art moderne de New York, elle l'a sous le bras. Ce qui a scandalisé. Vous voyez. Et elle l'appelle, c'est un sexe d'homme, elle l'appelle fillette. Voyez l'ambiguïté. Bon, c'est un sexe d'homme, il devient féminin parce qu'il est sous son bras. N'empêche, quand on voit la photo, que je n'ai pas là, mais que vous connaissez, eh bien, c'est un sexe d'homme, c'est pas autre chose. Voilà. Alors, c'est très fréquent et ça va apparaître encore plus dans ses rapports vis-à-vis de la mère. Deuxième thème, la mère. La mère, en plus, il y a Eugénie Grandet derrière, dont on n'a pas encore parlé. Pourquoi a-t-elle pris Eugénie Grandet? C'est pas du tout son histoire. Eugénie Grandet est une femme malheureuse parce qu'elle a obéi à son père et qu'elle a donné de l'argent à quelqu'un qu'elle aimait, qui est parti. Elle n'a pas voulu dire à qui elle l'a donné et toute sa vie, elle va rester riche, seule et très triste. Elle, c'est fini. Une fois que d'ailleurs, ça finit pas très bien. Quand sa mère meurt, elle veut se suicider. Sa mère meurt assez tôt. Mais elle va prendre assez tôt son indépendance. Elle fait l'école du Louvre. Elle a fait de la géométrie. Elle était très bonne élève. Elle a passé, je crois, presque un an en Russie avec un affichiste français. Et quand elle a trouvé Goldwater, elle avait déjà une vie derrière elle et une vie autonome en dehors de son père. Vous voyez, ça, c'est toujours la même ambiguïté. Par contre, sa mère est dans l'œuvre ultime. Elle ne parle franchement que de sa mère. Sa mère, ça va devenir une immense araignée de 9 mètres de haut qui va rentrer dans la tête galerie au moment où ils sont agrandis, où ils exposaient la tête galerie. C'était une ancienne usine qui avait été transformée en portion de la tête galerie. Immense araignée. Et elle dit de sa mère, alors ça, c'est pas l'araignée, c'est sa mère, ma meilleure amie, intelligente, patiente, rassurante, délicate, travailleuse, indispensable, merveilleuse tisserande comme l'araignée. Mais à la fois protectrice, mère nourricière, et ça, dans la sculpture, il y a sous le ventre de l'araignée des œufs, d'énormes œufs. Mais en même temps, elle a quelque chose d'un peu prédatrice. Elle veut surveiller sa lignée, mais elle a quelque chose d'assez violent. Elle fait un peu peur et elle dit peut-être qu'elle deviendra Médée. Alors, on recircuite parce que ensuite, elle a un dessin, une gouache que vous voyez là, même style que la gouache de tout à l'heure, qui est en fait elle-même.
Et c'est dans le ventre de sa mère.
C'est elle-même que vous apercevez dans le ventre de sa mère. Elle a ses cordons qu'elle peint toujours quand elle peint sa mère, qui sont des cordons ombilicaux, vous voyez, mais qui deviennent d'immenses filaments. Et puis le texte est pris par Balzac. C'est ce que disait, c'est ce qu'aurait pu inventer, c'est ce que dit Eugénie Grandet. Donc c'est elle-même, texte d'Eugénie Grandet, alors que quand elle avait quitté sa famille, c'était fini le problème. Enfin, elle va le recenser, mais elle ne souffrait plus. Et le texte, c'est « Ma mère avait raison, souffrir et mourir. Ah maman, j'ai tout fait, je n'ai jamais souffert ainsi. Je ne suis pas assez belle pour lui. » Lui, c'est l'amoureux d'Eugénie Grandet qui est parti avec l'argent. « Je suis trop laide, il ne fera pas attention à moi. Quelle idée va-t-il prendre de moi? Il croira que je ne l'aime ou que je ne l'aime plus. » Et elle appelle ça « Ma vie intérieure. » 2008. Voyez le chamboulement. Pendant ce temps-là, même portrait, elle représente quand même, puisqu'elle veut s'intéresser à Eugénie Grandet. Il y a deux portraits d'Eugénie Grandet qui sont assez troublants. L'une jeune fille, déjà très rangée. Très souvent, dans ces femmes, les cheveux vont en l'air. Là, au contraire, vous avez une immense natte qui va jusqu'au bas du dos. Premier portrait. Et puis deuxième, le deuxième ressemble exactement à elle-même, avec cette fois-ci plus d'enfants dans le ventre, puisqu'elle n'aura jamais d'enfants, c'est elle-même, mais toujours le mythe de la grossesse qui, pour Eugénie Grandet, n'aura pas lieu, avec ses cordons ombilicaux qui entourent le personnage. Oui, cette ambiguïté, presque obsessionnelle. Alors,
mais qu'est-ce qui pouvait la séduire, justement, dans le personnage d'Eugénie Grandet?
La douleur, et puis le courage. Et Eugénie Grandet, alors Balzac le dit très bien, devient de plus en plus belle. Alors qu'il y a toute la cour de cette ville de province qui essaie de l'épouser pour prendre son argent, elle ne donnera jamais rien à personne, mais elle est de plus en plus belle. Et elle, Eugénie Grandet, va résister à son père, Louise va résister à son père, jamais publiquement elles ne disent ni l'une ni l'autre du mal de leur père. aussi bien Balzac, quand quelqu'un veut parler de son attitude singulière vis-à-vis de Jenny Grandet, elle l'envoie au plot, elle refuse qu'il en parle, et elle, jamais... Alors, elle a fait des sculptures très dures contre son père, mais dans la parole, dans l'écriture, jamais rien. Et elle dit qu'au contraire, elle le respecte. C'est quelqu'un qui devait être respecté. Voyez l'ambiguïté. Alors, nous arrivons là à quand même un peu Jenny Grandet. Pourquoi avoir pris comme œuvre ultime cette exposition ultime qui a lieu dans la maison qu'occupait Balzac, qu'il a occupée pendant 9 ans et qui est devenue aujourd'hui le musée Balzac? Je crois que c'est une très bonne idée. Parce que d'abord, ça retrouve les autres maisons. C'est sur le bord de la Seine. C'est au bout de la rue Raynouard, c'est-à-dire la pente qui va vers la Seine, avec un jardin. Et Balzac n'occupait que le jardin et que le rez-de-chaussée. Il était très content parce qu'il y avait 2 portes, comme ça on ne l'embêtait pas. Il avait toujours des gens qui venaient lui réclamer de l'argent parce qu'il avait des dettes impossibles. Et il était tout près, non pas de Paris, mais de la porte de Passy. On est au 19e. Eh bien, ce lieu du 19e, je crois... Alors, elle était d'accord pour l'exposition, mais elle ne l'a pas vue. Elle est morte avant. Je crois, lui convenait parfaitement.
On va avancer sur les tissus.
Qu'est-ce qu'on voit dans l'exposition qui, malheureusement, n'a plus lieu? Eh bien, on voit ces deux œuvres, ces deux techniques récentes, les tissus et l'écriture. Les tissus, c'est les robes. Moi, je les connais un petit peu, pas très bien. Mais ma deuxième visite, je me souviens, dans sa maison de New York, il n'y avait que des robes. Des robes très chics, mais des robes de 1930, 38. Parce que sa famille avait un peu d'argent, donc elle était bien habillée. Tout ça est arrivé aux États-Unis et elle va le réutiliser pour les mettre justement dans les cellules. Vous voyez, le premier jeu avec les tissus. Et puis, deuxième œuvre, d'abord une sculpture, les ventouses. Donc, elle va retrouver par son talent l'atmosphère d'une maison de province au 19e. C'est très étonnant. Très étonnant, et qu'elle a connu, elle, mais jusqu'à 7-8 ans, parce que sa maison d'abord était un peu agitée, le père avait exigé que sa maîtresse y vive, vous voyez, c'était compliqué, c'était pas... Mais cette atmosphère de province, elle y était très attachée, donc elle représente, vous voyez, ce sont des ventouses qui ont été accrochées à un bloc et qui sont devenues une sculpture. Et ça, pour elle, c'est la maison de province, et puis, peut-être encore plus subjective, bien que ce ne soit qu'un dessin, un dessin d'eucalyptus qui est superbe, avec les mêmes formes un peu que celles qu'entoure tout à l'heure Eugénie elle-même.
Pourquoi l'eucalyptus?
Parce que c'est ce qu'on donne aux enfants quand ils toussent et qu'ils crachent et qu'ils ont une grippe. Vous voyez, les chambres d'enfants du 19e, il y avait une odeur d'eucalyptus.
C'est la Madeleine Proust de Louise Bourgeois.
Oui, Madeleine, je ne sais pas, mais ils ont été élevés là-dedans. Et puis elle-même, et ça elle le fait tardivement, elle refait elle-même, elle coud, elle brode. Ce qui est assez étonnant, très tardivement, elle le fait après l'an 2000, des tableaux sur une maille de tissu qui est très large, vous voyez. Et là, ce sont des boutons. Ici, elle coud des fleurs artificielles entourant la forme d'un visage. Ici, de nouveau des fleurs artificielles, mais une autre forme qui est la forme d'une pendule. Alors, c'est vraiment la maison de province avec l'odeur de l'eucalyptus, des tissus de femmes, l'horloge et le silence. C'est assez étonnant. Et ça, l'exposition était parfaite, parce qu'elle retrouvait cette atmosphère. Et ce qui est très extraordinaire, c'est que cette dame qui allait avoir 100 ans était obsédée par ses souvenirs d'enfance. D'enfance! Et qu'elle inventait un peu, elle truquait un peu, c'était Eugénie Grandet, puis ça devenait d'autres personnages de Balzac. Et en même temps, autre forme de création, l'écriture. Alors l'écriture... Ça commence pas très bien. Ce sont des listes, des énumérations, des souvenirs de chansonnettes, de complaintes, de refrains. Et puis ça se répète. Mais c'est en même temps extraordinairement graphique. Il y a par exemple cette écriture, rouge est la couleur du sang, rouge est la couleur de la douleur, rouge est la couleur de la violence, rouge est la couleur du danger, rouge est la couleur de la honte, etc., etc. Il y a 15 lignes de rouge. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, à mon avis, c'est moins ce qu'elle dit. Elle dit autre chose. Elle va écrire une ode à Eugénie Grandet, où elle se trahit. Je n'ai jamais grandi. Elle a beaucoup grandi. Eugénie Grandet, ça va devenir une vieille dame tout à fait comme il faut. Je n'ai jamais grandi, je me tiens près de la fenêtre. J'ai passé ma vie à faire des rideaux pour cacher les vitres sales. J'ai passé ma vie à faire des rideaux en surveillant l'immeuble d'en face. J'ai passé ma vie à attendre, j'ai passé ma vie à faire la vaisselle et à laver les légumes. J'ai passé ma vie à monter et descendre. J'ai passé ma vie à craindre le froid, etc., etc., etc. Mais, plus que le texte lui-même, elle joue avec les mots. C'est un peu comme un déjà-mais d'abolir à le hasard. C'est du faux Mallarmé. Elle ne savait pas qui c'était Mallarmé, mais peu importe. Mais les mots ont une valeur graphique. Les mots sont beaux à voir. Et ça, ça a été très, très bien vu par Frémont. Il dit « Les mots semblent se saisir de l'espace et leur manière de s'y déployer est souvent plus significative que leur sens. » Vous voyez, la forme du mot est plus significative que ce que dit le mot. Ça, c'est très elle. Parce qu'autrement, elle dit un peu n'importe quoi. Elle chansonnette, l'école du Louvre, sa vie à Paris. Et on en a peut-être un tout petit peu trop vu, parce que les marchands, à la fin de sa vie, ont été très forts. Mais c'est quand même très nouveau et très significatif. Alors voilà comment ça se termine. Vous voyez, cette femme qui a été un immense sculpteur, qui a une œuvre de sculpture dominée par les cellules, mais il y a plein d'autres choses. L'araignée, l'hystérie sont des grands monuments, est obsédée par ses maisons, et à la fin de sa vie, elle retrouve une enfance qu'elle n'a pas tout à fait eue, qui est un peu une enfance littéraire. Elle se retrouve dans Balzac, qu'elle connaissait pas très bien, je crois. Enfin bon, elle fait comme si elle les connaissait bien, et jusqu'à la fin de sa vie, elle vit dans sa mémoire. C'est comme si c'est la fin de la belle étude de Frémont. Il écrit « Elle aura travaillé jusqu'à la fin de sa vie à renouer les fils du temps ».
Alors son œuvre ultime, on peut dire que c'est son intérêt pour la féminité.
Oui, la féminité est liée à tout ça. Jamais un homme n'aurait pu, bien que c'est parfois des allures monumentales, mais jamais un homme n'aurait pu faire ce qu'elle a fait. C'est quand même très, très, très féminin. Mais là, elle insiste surtout, si vous voulez, le matériau. Il n'y a que les grands couturiers qui utilisent les robes des femmes. Les sculpteurs ne l'utilisent pas. Elle, elle en fait des sculptures, elle en fait des œuvres d'art. Vous voyez cette œuvre extraordinairement complexe.
Alors, il nous reste à citer quelques références, si vous voulez bien nous les donner.
Alors, la première de Jean Frémont. Alors, les références, deux auteurs. D'abord, il y a quelqu'un qu'on doit citer, c'est Dominique Bozzo. Dominique Bozzo était conservateur du Musée d'Art Moderne. Il a été très tôt à New York, il a beaucoup connu, il l'a beaucoup protégé. Il en a fait acheter à Paris. Et il y a, pour les auditeurs, quand ils n'ont rien à faire, ils montent aux Tuileries. Ils vont tout au bout des Tuileries, juste devant la Concorde. Et là, il y a une sorte de terrasse. Et sur la terrasse, sur la pierre, il y a des mains de Louise Bourgeois qui sont accrochées à la pierre, qui sont superbes. Bon, pour vous montrer, ça, ce sont les auteurs. Autre auteur, dont Jean Frémont, qui est allé voir tous les ans pendant 25 ans, malheureusement, Dominique Bozzo est mort, donc il l'a connu, mais autrefois, il ne l'a pas revu récemment. Jean Frémont va la suivre jusqu'à sa mort, d'autant qu'elle va exposer à la Galerie Mag, enfin voilà. Donc, il a écrit « Moi, Eugénie Grandet », qui est un essai. Il a écrit « Femme maison », qui est édité à l'échoppe. Et il a édité « Naissance », qui regroupe les gouaches que je vous ai montrées tout à l'heure, assez terrifiantes, des moments de la naissance. Et puis, il y a quelqu'un qu'il faut aussi beaucoup citer, parce qu'elle l'a bien connu et qu'elle a écrit un merveilleux livre et une merveilleuse exposition, c'est Marie-Laure Bernadac.
Merci, nous avons donc les informations très complètes. Merci à vous, Jacques Lubinet. Prochaine émission consacrée à Raoul Dufy. Merci à vous.